France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
On commence à s'interroger sur le déconfinement, mais je veux dire aussi très clairement aux Français que le déconfinement, ça n'est pas pour demain matin. Car aujourd'hui, c'est la logique du confinement qui doit prévaloir. Elle doit prévaloir au moins jusqu'au 15 avril, et peut-être plus longtemps si les consignes sanitaires l'exigent. Et quand je dis peut-être plus longtemps, c'est probablement plus longtemps.
C'était ce jeudi sur TF1. Le Premier ministre face à la crise, Édouard Philippe, répondait à la question que nous nous posons tous. Quand sortirons-nous du confinement? Quand retrouverons-nous notre liberté? Des questions qui suscitent chez nous tous de l'impatience, de l'espoir. Mais la conclusion du Premier ministre était sans appel. Ce n'est pas pour demain matin. Natacha, Gilles, que retenez-vous? L'idée qu'on a une petite lumière qu'on aperçoit au bout du tunnel, ou le sentiment finalement qu'on n'est vraiment pas prêt d'en sortir? Natacha d'abord.
Je crois que, en effet, nous devons nous inscrire dans le long terme. Et je pense que surtout, ce qu'il faut bien comprendre en tant que citoyen, c'est que la problématique n'est pas seulement de savoir si, à titre individuel, nous allons sortir à un moment et si ce sera le plus tôt possible. La question est collective. C'est-à-dire que l'aboutissement, ce n'est pas seulement le moment où nous sortons. C'est la question de la reprise des activités normales, la question sanitaire, comment on fait en sorte de ne pas subir une deuxième vague et d'endiguer les nouvelles contaminations qui pourraient se développer. C'est pour ça que le Premier ministre a eu raison de le dire, c'est extrêmement complexe. Il a eu raison, je pense, d'adopter ce ton profondément mesuré et prudent, tout simplement parce que rien n'est facile, rien n'est simple là-dedans. On aurait aimé qu'il adopte aussi un ton, disons, de transparence un peu plus grande, puisque sur la question des masques, on a bien vu que le discours avait changé du tout au tout, sans qu'on assume le fait que le discours avait changé du tout au tout. Et si on veut que ce déconfinement se passe dans les meilleures conditions, il faut commencer à traiter les Français en citoyens adultes, leur dire la vérité, c'est-à-dire à quel moment il y aura des masques et des tests sans lesquels aucun déconfinement ne peut être sûr et ne peut être maîtrisé. Et c'est à cela qu'on aimerait arriver. Pour l'instant, on n'est pas encore totalement dans la transparence politique. En revanche, on sent bien la prudence.
Gilles, même question. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que disait le Premier ministre? L'espoir ou au contraire l'idée qu'on était finalement sous une douche froide et que c'était pas pour maintenant?
Vous vous souvenez, dans le dernier métro de François Truffaut, Gérard Depardieu, à plusieurs reprises, à une tirade dans la pièce qu'il joue, il dit « c'est une joie et une souffrance ». Là, c'est un espoir et une douche froide. C'est-à-dire, c'est un espoir parce que on aperçoit qu'après le confinement, il y a le déconfinement. Et ça ouvre une perspective, et évidemment, chacun s'en réjouit. Mais c'est aussi une douche froide parce que la question n'est pas seulement celle du moment. On a compris que ça allait être long, on a compris à demi-mot que ça allait aller au-delà du 15 avril, mais la question est celle du comment. Et ce que l'on perçoit de plus en plus, c'est que ça va être ces modalités différenciées sont compliquées. Et donc, il y a une perspective, mais c'est une perspective qui est une perspective voilée. Et donc, c'est à la fois un espoir et une douche froide. Au-delà, évidemment, on ne sait pas exactement ni à quel moment, ni exactement quels seront les critères.
Pourquoi une perspective voilée? Pourquoi ce mot, Gilles?
Pourquoi voilée? Ben parce que quand on essaye de se représenter ce que sera le monde d'après le confinement, la première chose qui est à peu près acquise, c'est que ce déconfinement va acter une rupture, pas seulement par rapport au monde du confinement, mais par rapport au monde d'avant le confinement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de nos habitudes sociales, de nos pratiques culturelles, de nos pratiques professionnelles, qui vont sans doute durablement être affectées par cette crise. Que le déconfinement aura une contrepartie, un coût. C'est-à-dire qu'on n'en a pas fini avec les contraintes. Que si déconfinement il y a, et quand il y aura déconfinement, il faudra tester beaucoup, tracer, sans doute, on en discutera tout à l'heure, différencier certainement, et enfin, une perspective voilée, parce que ce déconfinement comporte un risque, c'est qu'après le déconfinement, il y ait à un moment le reconfinement. dans les conclusions du rapport célèbre de Neil Ferguson de l'Imperial College de Londres, il disait déjà que après la levée des mesures contraignantes, il y a un risque d'un pic épidémique plus tard dans l'année. Alors évidemment, ce risque-là n'est pas certain, mais pour toutes ces raisons, c'est une perspective, et ça c'est bien, et c'est une perspective voilée parce que on mesure que le combat est encore long.
Oui, je pense que, enfin, pour ajouter ce que vient de dire Gilles.
C'est une bonne stratégie de la part du gouvernement d'annoncer la reconduction du confinement de 15 jours en 15 jours. Ou est-ce qu'il faudrait d'ores et déjà nous dire aux citoyens français que ça va durer beaucoup plus longtemps que ce que certains imaginent?
C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur la question de la transparence, en tout cas de l'honnêteté.
Je ne sais pas si vous m'entendez l'un et l'autre,
on a un petit décalage
à l'antenne.
On a un décalage, donc j'ai entendu la question. Et donc, ce que je disais tout à l'heure sur la question de la transparence.
Léger décalage, mais l'essentiel, c'est d'être à l'antenne.
Voilà. La question de la transparence, c'est la question de savoir si le pouvoir politique prononce les mots de vérité qui vont permettre à chacun, justement, de comprendre comment ça va se passer et d'anticiper sur ce qu'il doit faire. Là où Gilles a totalement raison, c'est que les choses ne seront pas comme avant. Tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, la première chose que je ferai quand je me déconfinerai, je ferai une grande fête, etc. Eh bien non, justement. Il faut que le message passe, que ce n'est pas comme cela que ça va se passer, c'est-à-dire ce n'est pas magique, c'est pas on-off. Et justement, c'est pour ça que j'insiste sur le discours sur les masques, parce qu'il est essentiel. On voit bien que il va falloir faire en sorte que le virus ne se repropage pas. Donc, il faut expliquer aux gens, d'abord, qu'il faut que le confinement dure suffisamment longtemps. Et je vois en Angleterre où les autorités n'hésitent pas à dire de toute façon, les écoles ne rouvriront pas avant septembre. Et je ne comprends toujours pas pourquoi chez nous, en effet, c'est de 15 jours en 15 jours, comme si on considérait que les citoyens ne sont pas capables d'entendre qu'évidemment, ça va être plus long que ça. Ensuite, sur les masques, on a bien vu que, je le disais, le discours a changé. Édouard Philippe, jeudi soir, n'a pas dit « on a menti, on a fait croire que les masques ne servaient à rien parce qu'on en manquait ». Mais finalement, c'est totalement ce qu'on comprend dans son discours, puisque il dit « nous avions peur qu'il n'y ait pas assez de masques pour les soignants, donc nous les avons réservés aux soignants ». Mais donc, ils nous ont raconté des cracks. Premier point. Deuxième point. Si on veut désormais que le déconfinement se passe bien, il faut faire comprendre aux gens que ces masques permettent d'éviter que quelqu'un qui est asymptomatique ne contamine sans le savoir. Et que donc le mieux est que tout le monde en porte pendant une durée qui va permettre de réellement mettre fin à cette épidémie, accompagné de tests massifs. Donc la question qu'il faut absolument régler, c'est quand est-ce que ces conditions-là seront suffisantes, seront remplies pour que le déconfinement puisse se passer bien, sachant qu'il y a une course contre la montre qui est économique là-dedans. C'est-à-dire que pendant que nous sommes confinés, l'économie est en train de se gripper de façon de plus en plus importante et qu'il y aura des gens qui risquent de rester sur le carreau parce qu'il y en a qui, pour l'instant, n'ont plus de revenus. Il y en a qui ne savent pas comment leur entreprise va pouvoir marcher. C'est tout cela qui est un enjeu. Alors, c'est un enjeu extrêmement complexe, mais je pense que plus on dira les choses de cette façon-là aux citoyens et plus ils comprendront que leur action à eux détermine la façon dont ça va se passer.
Si je peux peut-être réagir sur deux points, un sur les Français et deux sur le gouvernement. Je ne sais pas si Ali ou Natacha, vous êtes vous-même interrogé sur la première chose que vous feriez après le confinement, mais cette question a été posée aux Français par Kantar, un institut de sondage. Et ce qui est très frappant, c'est que les attentes des Français sont assez modestes. Je ne sais pas quelle est la réponse que vous avez apportée. Celle des Français, la première chose qu'ils veulent faire, 31% d'entre eux, c'est inviter des proches ou des amis à dîner. Et 20%, c'est aller boire un verre ou dîner dans un restaurant. Donc, on n'est pas dans la méga fête qu'évoque Natacha. On n'est pas dans « je vais faire un grand voyage autour du monde ». On est, pour l'instant, en tout cas, sur des attentes qui sont des attentes suffisamment modestes pour pouvoir être satisfaites. Quant à la communication du gouvernement, la communication étant une chose, les décisions de politique publique en étant une autre,
on verra le jour où le confinement sera levé.
Mais je dois dire quand même que sur les choix de politique publique, malgré tout, pour l'essentiel, les choix de politique économique et sociale, le soutien aux entreprises, aux salariés avec le chômage partiel, la réorganisation du système sanitaire, l'augmentation du nombre de lits, la formation des enseignants, la logistique entre le public et le privé, entre les régions qui sont en tension et le reste du pays, entre la France et ses voisins, je trouve que tout ça fonctionne quand même plutôt pas si mal que ça, en tout cas que les décisions sont beaucoup plus avisées que celles que l'on voit aux États-Unis et beaucoup plus transparentes que celles que l'on voit en Chine. Reste la question de la communication. J'étais critique la semaine dernière, vous vous en souvenez pour ceux qui écoutaient cette émission. Je dois dire que je trouve que c'est beaucoup mieux et que le reproche en manque de transparence de Natacha, je trouve qu'il vaut moins cette semaine que pour la semaine dernière. Et peut-être, en un mot, ce qui a changé, c'est que l'idée qui prévalait, enfin, le décryptage que je peux en faire en tout cas, l'idée qui prévalait était que nous étions dans une guerre au sens d'une guerre classique et qu'elle appelait, ce faisant, un discours vertical de mobilisation et que dans une guerre classique, on doit même être parfois dans la dissimulation. C'était un peu le malaise que l'on avait après la dernière intervention d'Emmanuel Macron. Là, on a le sentiment qu'il y a eu une prise de conscience qu'on n'est pas dans une guerre classique mais dans une guerre sanitaire. Et qu'on n'est pas dans un discours vertical, mais on a besoin d'horizontalité, de parler à des citoyens, d'expliquer la stratégie, de transparence sur les réalités. Et c'est beaucoup plus ce qui a été fait dès samedi dernier par Édouard Philippe et par Olivier Véran. Et je trouve qu'il y a Olivier Véran et qui a été poursuivi depuis lors. Tout cela, malgré tout, a un coût, puisque la crédibilité du gouvernement a beaucoup diminué. Le sentiment des Français que le gouvernement a caché des informations est très massif. Le sentiment qu'il a agi avec retard est très massif aussi. Et la confiance dans le gouvernement pour gérer la crise a perdu 18 points en l'espace de 15 jours. Et donc tout cela, évidemment, à terme, peut être un problème.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
En fait, on compte des mobiles et on dit il y a tant de mobiles qui se sont raccordés à notre réseau. Et on ne sait pas à qui sont ces mobiles et si effectivement ils ont bougé sur le territoire. Et donc ça donne une idée sur ces mailles de combien de personnes nous avons eu par exemple après le confinement. Donc c'est à un moment donné, c'est une photographie. Donc on a fait une photo avant et une photo après. Et nous avons effectivement transmis ces informations à l'Inserm, ce qui leur permet de connaître le nombre de personnes sur un territoire pour mieux dimensionner les infrastructures de soins. Et donc, ce sont des données anonymisées.
C'était la directrice générale adjointe d'Orange, Marie-Noëlle Jégo-Lavessière, au micro de Fabienne Sintès sur France Inter ce mardi dans le téléphone sonne. Des données fournies par l'opérateur Orange qui ont permis de mesurer l'exode massif des Parisiens au moment où le confinement était décrété. Plus d'un million de Franciliens avaient quitté leur région. Et c'est une question sur laquelle vous vouliez revenir, Gilles et Natacha, celle du backtracking, de la géolocalisation, de la surveillance numérique qui se généralise et qui est un risque aujourd'hui que craignent beaucoup, beaucoup, même en France. Natacha.
Oui, cette question, enfin, cela dit, ne se résume pas à ce qui vient d'être montré et qui est assez anecdotique, à savoir la mesure de où sont les gens. C'est la question de savoir comment utiliser des outils technologiques pour permettre de repérer immédiatement un malade et les gens qu'il a croisés. Alors, le principe est qu'il existe plusieurs façons de le faire et qu'on voit surgir des propositions. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces choses-là. Donc, ce que je lis, c'est qu'il existe plusieurs manières d'élaborer ce pistage et qu'il existerait par exemple des applications moins intrusives que d'autres, comme l'usage du Bluetooth pour repérer simplement les téléphones qui se sont approchés du téléphone d'une personne, comme ça si cette personne est testée positive, eh bien on va très rapidement savoir qui il a approché dans les 14 derniers jours. Et il me semble que, si j'ai bien compris ce que disait le Premier ministre, c'est plutôt ce genre d'application qui serait étudiée en France, parce que nous ne sommes pas la Chine et parce que nous n'allons pas avoir un État qui va utiliser utiliser les données individuelles. Alors, le problème est que, de toute façon, nous sommes dans une société où nos données nous sont confisquées, nous les offrons à la puissance privée, mais... Heureusement, dans les pays démocratiques, nous considérons que l'État n'a pas à les utiliser et n'a pas à s'introduire là-dedans. Et on peut espérer qu'il reste, malgré cette crise et malgré la peur et malgré les inquiétudes légitimes des citoyens, l'idée que cette liberté qui consiste à ne pas être surveillée par l'État est une liberté fondamentale. Et donc qu'il va falloir trouver un équilibre entre la préservation de nos libertés et la sécurité nécessaire en matière épidémiologique. Alors simplement, je pense que c'est tout cela doit être fait d'un point de vue démocratique, c'est-à-dire en utilisant les différents contre-pouvoirs qui existent pour garantir que les mesures exceptionnelles qui pourraient être prises là à cause de cette épidémie ne seront pas ensuite introduites dans le droit commun, ce qui hélas est très souvent la règle, et ce qu'on a vu par exemple avec l'état d'urgence post-attentat. Mais cela relève à la fois des contre-pouvoirs qui sont des contre-pouvoirs institutionnels et de la volonté de chaque citoyen de s'impliquer dans cette question-là plutôt que de déléguer à l'État le fait de les protéger sans que les citoyens ne veuillent savoir de quelle manière ils sont protégés.
Gilles ?
Oui, il faut bien comprendre que cette, la réflexion qui s'ouvre sur l'utilisation des données de nos téléphones portables, elle se fait pour un moment précis qui est le moment du déconfinement, entre le moment, entre la sortie du confinement et le moment où nous aurons des traitements ou un vaccin. Avec un but qui est assez simple en réalité, c'est que pour éviter de confiner, de reconfiner tout le monde, il faut pouvoir confiner ceux qui sont infectés et repérer ceux qui risquent de l'être. Pour cela, on a l'outil le plus simple, c'est ce que l'on évoquait au début de cette discussion sur les règles de distanciation sociale qui vont perdurer après le confinement. Et pour le reste, on a des outils limités. On a la biologie qui va permettre de tester et de savoir qui est infecté. Et on a la technologie qui va permettre de savoir qui risque d'être infecté parce qu'il a été en contact avec quelqu'un qui est malade. Et donc, il y a une pression qu'on comprend évidemment très bien, et on l'a vu la semaine dernière avec notre invité, une pression des épidémiologistes pour tester beaucoup et pour tracer autant qu'il est possible. Mais c'est un grand débat de société dans lequel il y a quelque chose qui est une dimension qui est relativement facile, c'est ce par laquelle vous avez commencé, c'est l'utilisation des données collectives. La géolocalisation globale, anonymisée, qui n'est pas anecdotique, parce que elle permet d'élaborer des modèles mathématiques sur les mouvements de population afin de prédire les foyers de contagion. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous avez vu que cette semaine, Thierry Breton, le commissaire européen, a réuni les 8 plus grands opérateurs de télécom pour partager ces données de géolocalisation. Bon, ça, c'est pas si compliqué.
En et revanche, permettre de dispatcher justement les moyens sanitaires là où ils seront nécessaires.
Exactement. Ça, disons que c'est relativement consensuel. Là où c'est plus délicat, ce n'est pas l'utilisation des données collectives, c'est l'utilisation des données individuelles. Et là aussi, je crois qu'il faut opérer une distinction. Si c'est pour réaliser une surveillance policière des malades, comme ça se fait dans un certain nombre de pays, je pense que c'est ce qui n'est pas du tout aujourd'hui envisagé par le gouvernement, mais c'est une possibilité offerte par cette technologie.
Non, mais qui a été pratiquée en Corée, par exemple, et qui n'est pas la Chine.
Absolument, ça a été, dans beaucoup d'autres pays. Là, je pense que ça va trop loin. Si c'est pour retrouver les personnes qui ont été en proximité des malades, on comprend bien qu'on ne peut pas le faire à la main et que l'outil technologique ouvre des possibilités. Alors, Natacha Polony a dit qu'elle a fixé un certain nombre de conditions, et je pense qu'elles sont justes, le fait que ce soit temporaire, que ce soit proportionné. Il y a une dernière question qui est très compliquée, que je voudrais juste soulever, qui est, une fois que ces conditions sont réunies, est-ce que cette application, si c'est une application, elle doit être mise automatiquement sur votre portable? Ou est-ce que vous devez faire une démarche? C'est-à-dire jusqu'où
d'autorité.
L'incitation doit-elle aller? Et je crois que c'est très important d'avoir tous ces débats-là et de les avoir maintenant, parce que tout cela ne peut marcher que si l'acceptabilité sociale est là parce que, par définition, ça ne marche que si tout le monde, ou en tout cas une partie très importante de la population s'en sert. Et donc, il faut avoir dès maintenant ce débat.
Juste un mot, je suis d'accord totalement, Gilles, sur le, je suis d'accord totalement sur le fait que le débat consiste à savoir si les citoyens vont le faire d'eux-mêmes ou si ça va être imposé. Ils ne peuvent vouloir le faire d'eux-mêmes que si on leur garantit justement que tout cela et préserve leur liberté, mais aussi s'ils ont l'impression que les autres éléments sont garantis, parce que le tracking, ça ne fonctionne que quand c'est accompagné de tests et de masques. Donc c'est d'où la question fondamentale dont nous parlions avant. Et c'est pour ça que je pense que il faut ces éléments-là pour que les citoyens décident par eux-mêmes, librement et avec toute leur conscience, de ce qu'ils veulent accepter et de ce qu'ils n'accepteront pas.
D'un mot, justement, Gilles, puisque vous suivez chaque semaine les études que vous menez avec l'IFOP sur le moral des Français confinés, quelles sont les grandes leçons qu'on peut tirer cette semaine de ce que vous disent, de ce qui vous remonte des Français que vous observez de près?
Si je le dis d'un mot, en précisant en toute rigueur que c'est pas où en sont les Français aujourd'hui, mais c'est où en étaient les Français il y a quelques jours, puisque évidemment il y a un petit temps de décalage. La tendance de la semaine passée, elle se résume simplement, c'est une montée de la peur. On est passé de l'ennui à l'angoisse. C'est vrai, on a eu beaucoup de reportages, on l'a vu chez ceux qui ne sont pas confinés, mais c'est vrai aussi, et c'est ça la leçon principale, chez ceux qui sont confinés. Alors il y a des données quantitatives, des sondages qui ont été faits. 81% des Français qui ont peur de perdre un proche, 62% qui ont peur de perdre la vie. C'est absolument considérable. Et ces données-là ont été explicitées, enrichies par le suivi que l'on fait des Français dans le cahier de confinement qu'ils nous remplissent tous les jours. On voit que cette peur, elle se concentre sur certains moments, la fin de journée, les courses. Au début, les courses, c'était un moment de liberté. De plus en plus, c'est un moment d'inquiétude. Et ça se traduit. Ça se traduit dans les discussions qu'ils disent avoir avec leurs proches, notamment ceux avec lesquels ils ne sont pas. Ils disent le premier sujet, c'est non seulement la santé, mais on traque nos premiers symptômes. Et ça se traduit dans les pratiques. On prend plus de précautions. Ouais. Je ne sais pas si les auditeurs, vous-même, vous allez vous reconnaître là-dedans. On espace les courses, on désinfecte les poignées de porte. Certains lavent tout leur linge, d'autres n'embrassent plus leur conjoint. Ça se traduit par la recherche de moments de relâchement. Hein, les vidéos apéros, c'est surtout des apéros. Et on évite les moments d'angoisse avec une espèce de mise à distance de ces flux d'informations. Je pense que si ça se confirme, cette montée de la peur, c'est un élément très important parce qu'on vit quelque chose d'unique, une expérience commune de l'humanité confinée. Et si cette peur est partagée, et ben la question de la résilience, pas seulement de l'économie, mais celle des individus, va se poser avec une grande acuité.